BFM Business, Sport Echo, Bruno Fraioli.
Bonjour, Sport Echo spécial football cette semaine avec un numéro enregistré exceptionnellement au salon Galaxy Foot qui se tient à Paris. On parlera de la santé économique du ballon rond et de son intérêt pour les partenaires. Sport Echo numéro 207, c'est tout de suite sur BFM Business. Bonjour Dorothée Balzan.
Bonjour Bruno.
On commence avec vous et le journal du marketing sportif. Alors l'actualité, ce sont les droits TV et enfin, nous savons sur quelle chaîne seront diffusés les matchs de l'Euro 2012.
L'accord officiel a été annoncé mardi par l'UEFA. La France était le dernier pays majeur où aucun contrat n'avait été signé. Alors concrètement, tous les matchs de l'équipe que l'équipe de France jouera seront diffusés en clair. TF1 diffusera 9 matchs, dont un match de poule de l'équipe de France et la finale. M6 en diffusera 10, dont 2 matchs de poule de l'équipe de France. Tous les détails sont sur la page Facebook de Sport Echo et beIN Sport, la chaîne Sport d'Al Jazeera, diffusera, elle, toutes les rencontres, même celles programmées en clair par TF1 et M6. Chaque opérateur a déboursé des montants estimés entre 20 et 30 millions d'euros. À noter que ce contrat vaut également pour l'édition 2016 de l'Euro qui se disputera en France.
Ouais, et évidemment, hein, chez TF1, on est très content. Bonjour Laurent-Éric Lelay.
Bonjour.
Vous êtes le président d'Eurosport, le directeur des acquisitions des programmes sportifs chez TF1. Alors, l'accord a été long à se concrétiser. Pourquoi ?
C'est vrai que l'accord était assez long à concrétiser parce que l'UEFA avait des grandes ambitions pour l'Euro 2012 et surtout pour l'Euro 2016 qui a lieu, comme vous le savez, en France.
Alors, je le disais, vous allez diffuser pour l'Euro 2012 9 matchs en direct, en clair, dont un match de poule de l'équipe de France, la finale. Vous allez en diffuser 11, je ne me trompe pas, pour l'Euro 2016.
Oui.
En direct. Chez TF1, vous avez l'habitude de signer des contrats groupes, c'est-à-dire pour toutes les antennes, notamment également Eurosport, LCI. C'est le cas également pour l'Euro 2012.
Écoutez, cet accord concerne uniquement l'antenne de TF1 avec la retransmission en direct des 9 matchs pour 2012 et des 11 matchs pour 2016, ainsi que quelques magazines. Bien entendu, Téléfoot et quelques magazines qu'on pourra être amené à faire après la diffusion en direct des matchs.
C'est ce qu'on appelle les highlights, les meilleures images. Vous allez pouvoir faire des magazines avec.
Voilà, exactement. Sachant que après la diffusion en direct d'un match, on le fera essentiellement pour les matchs qui seront diffusés en prime time. On fera un petit magazine qui résumera les images des matchs de la journée, qui permettra aux téléspectateurs d'avoir les réactions et les commentaires à chaud du match qui vient de se terminer. Et puis, bien entendu, Téléfoot, toutes les semaines, tous les dimanches matin, reviendra sur l'actualité de la semaine.
Et Eurosport, donc, on aura de l'Euro ?
Alors, sur Eurosport, nous, on travaille avec l'UEFA sur un accord européen, donc qui s'attend sur l'ensemble de l'Europe, Eurosport va se positionner de manière complémentaire parce que vous savez que dans chaque pays européen, vous avez un grand diffuseur, une grande chaîne hertzienne qui diffusera en direct les matchs. Donc nous, sur Eurosport, on a préféré se positionner sur un magazine et sur la retransmission en différé des matchs. Donc c'est l'accord sur lequel on est en train de discuter avec les instances européennes.
Est-ce que vous avez également les droits internet de vos matchs ?
Alors, bien entendu, aujourd'hui, à TF1, nous achetons des droits, sachant que le mode de diffusion de TF1 est un mode qu'on appelle simulcast ou multi-écran, c'est-à-dire que le match, vous pouvez le voir, bien entendu, sur votre téléviseur, mais également sur l'application MyTF1, que ce soit sur un PC, sur un mobile, sur un smartphone, sur une tablette.
Alors, on est à moins de 2 mois du coup d'envoi, pratiquement 2 mois du coup d'envoi de l'Euro. Comment TF1 va s'organiser maintenant, les équipes, les moyens techniques, la logistique, tout ça, ça avait été préempté, Laurent-Éric ?
Écoutez, on a une grande expérience pour gérer ces événements-là, donc je ne me fais pas de soucis sur notre capacité à pouvoir bien organiser toute la production sur le terrain, sachant que, comme vous le savez, l'UEFA organise elle-même la production de ces matchs ainsi que toutes les installations pour les diffuseurs.
Vous allez pouvoir rajouter des caméras sur place ?
Oui, alors, vous savez, la production des matchs, elle est quand même remarquablement bien faite. Hein, donc, les matchs vont être en haute définition, ils vont être très très bien réalisés. Après, l'idée, c'est de savoir si ponctuellement, sur certains matchs qui peuvent être des grands rendez-vous qui concernent l'équipe de France, on peut rajouter un dispositif exceptionnel comme un commentateur sur le terrain. Donc, on est en train de travailler sur toutes les options. Le but, bien entendu, et d'assurer une couverture optimale de l'événement, et je pense qu'on a un grand savoir-faire dans ce domaine.
Merci Laurent-Éric Lelay, je rappelle que vous êtes le directeur des acquisitions sport du groupe TF1 et le président d'Eurosport.
Et bien sûr aujourd'hui ce sont aussi les équipes commerciales des régies publicitaires qui sont sur le pont. TF1 Publicité et M6 Publicité viennent de dévoiler leurs tarifs pour les matchs de l'Euro. Sur M6 par exemple, un spot de 30 secondes diffusé à la mi-temps de France-Ukraine le 15 juin à 18h coûte 100 000 euros et pour France-Suède du 19 juin à 20h45 150 000 euros.
Ouais, un petit peu d'argent quand même. Alors évidemment, hein, il n'y a pas que TF1 qui se réjouit, Dorothée.
Chez M6, on est également très content de diffuser l'Euro 2012 et c'est aussi un soulagement pour le présentateur vedette de la chaîne, Thierry Roland. Il s'interroge sur la suite de ces compétitions internationales qui pourraient être de plus en plus diffusées sur des chaînes payantes comme beIN Sport. On l'écoute.
Oui, c'est vrai, on a poussé un gros ouf de soulagement parce que 2 mois avant le début de la compétition, on n'avait toujours pas de réponse de l'UEFA. Mais enfin bon, maintenant c'est fait, on a entre TF1 et M6, on a donc ces 19 matchs. Et personnellement, moi je suis très content parce que ça me paraissait quand même gros que tout l'Euro soit retransmis sur une nouvelle chaîne payante quand même. Ça me paraissait anachronique, complet. Et pour l'avenir, je me demande comment les gens vont faire parce que bon... C'est vrai qu'on est en période de crise, même si on espère on en voit la fin, mais il y a d'autres priorités que d'avoir 2 abonnements à souscrire pour satisfaire une passion du football, quoi.
Thierry Roland, le commentateur de M6, est ravi d'accueillir l'Euro 2012 sur sa chaîne. Et puis Thierry Roland qui pourra réviser ses listes de joueurs grâce aux célèbres vignettes Panini.
Panini vient de sortir la 9e édition de son album consacré à l'Euro. Au total, 540 autocollants sont à collectionner, dont 20 joueurs par équipe. Alors concernant l'équipe de France, comment est-ce que l'éditeur italien a fait pour choisir les joueurs alors que le sélectionneur Laurent Blanc n'a pas encore arrêté sa liste? Écoutez la réponse d'Isabelle Fillon. Elle est responsable marketing et communication de Panini France.
Alors c'est toujours la question un peu compliquée. En effet, c'est vrai que donc là, l'album de stickers sur l'Euro 2012 est déjà disponible. Donc on peut l'avoir déjà physiquement aujourd'hui entre les mains. Donc pour que tout ceci soit possible, en fait, on est amené en fait à travailler sur la collection de stickers sur l'Euro dès le mois d'octobre, décembre environ, avec en effet au mois de décembre une première sélection en fait qui est faite sur les joueurs qui vont composer donc la collection. Donc en ce qui nous concerne notamment donc l'équipe de France. Et après au niveau du timing, en fait, au mois de février, on valide de manière définitive donc la sélection de l'équipe de France pour un départ en production de l'album dans le mois de février, mi-février.
Une sélection avec une certaine prise de risque donc pour Panini, mais dans le passé finalement, l'éditeur n'a pas fait beaucoup d'erreurs. Quel est leur secret? Peut-être tout simplement en posant la question directement à Laurent Blanc lui-même. Isabelle Fillon.
Non, pas du tout. Donc c'est vrai qu'on est en contact par contre très très étroit bien évidemment avec la Fédération Française de Football avec qui on a l'occasion donc d'échanger sur justement cette sélection qui est faite, donc la sélection de 20 joueurs hein, qui va composer donc la collection Panini sur l'équipe de France. Donc on échange énormément, on partage sur des idées, sur des nouveaux joueurs qui pourraient faire partie en effet de la sélection, qui n'ont pas encore été appelés au niveau des tours de qualification, etc. Donc peut-être qu'il a un œil un peu éloigné en effet, mais par contre, on n'a pas de validation de sa part directement.
Isabelle Fillon, donc la responsable marketing et communication de Panini France. Et Bruno, je vous offre vos premières vignettes Panini
de l'Euro
2012.
Bon, je vais voir qui j'ai hein, comme premier joueur. Merci Dorothée, je vais commencer donc cette collection. On va continuer quand même avec le journal du marketing sportif, Dorothée. Toujours en télé et toujours beIN Sport hein, qui se dévoile.
La chaîne a présenté son logo officiel. Il est violet et se veut premium. D'après le groupe, il doit traduire les valeurs des deux futures chaînes, Innovation, Modernité et Générosité.
Et Dorothée, on connaît hein, le lancement des deux dates, enfin les dates de lancement des deux chaînes beIN Sports, je vais y arriver.
Voilà, ce sera le 1er juin, soit une semaine avant le match d'ouverture de l'Euro 2012 qui doit laisser le temps aux équipes de Charles Bietri de se roder un petit peu.
On reste avec les droits TV et la Coupe de l'América qui sera diffusée sur Canal+.
La 34e édition se disputera du 7 au 22 septembre 2013 dans la baie de San Francisco et ce sera donc Canal+ et les chaînes du groupe qui retransmettront l'événement comme lors des précédentes éditions. L'accord comprend aussi la couverture des World Series, les compétitions qui se disputent en amont de la Coupe comme celle de cette semaine à Naples en Italie. Un bateau français est engagé dans la Coupe de l'América. Il s'agit du Défi Energy Team emmené par les frères Perron.
On reste toujours avec Canal+ qui renouvelle ses contrats de diffusion dans le golf.
Cette fois, la chaîne a remporté sa bataille face à Al Jazeera. Elle conserve les droits du golf que les Qataris voulaient récupérer. Il s'agit des droits du Tour européen, du Tour américain, de la Ryder Cup et du Master d'Augusta. Un joli coup donc qui permet au groupe d'envisager sérieusement son projet de chaîne 100% golf, Golf+.
Oui, ça fait un an qu'on l'attend cette chaîne. En revanche, une chaîne 100% tennis va exister.
Cette chaîne s'appellera Tennis Play. Elle est disponible sur tennisplay.fr, Dailymotion et bientôt sur la Freebox. On y trouve non pas des matchs en direct, mais des matchs de légende, des moments forts du tennis mondial et français, des documentaires, des magazines. Le principe, c'est la VOD, avec des vidéos qui coûtent entre 2 et 4 euros et bientôt un abonnement possible illimité à 9 euros.
Et sur BFM Business, on passe aux chiffres de la semaine de Kantar Sport avec vous, Laurent Martinez. Bonjour Laurent.
Bonjour Bruno.
Vous êtes le directeur des études de Kantar Sport. Alors le week-end dernier était très chargé en événements sportifs, rugby, football, tennis, cyclisme, hein, entre autres. Je crois que Laurent, d'abord on va revenir sur le vélo.
Oui Bruno, alors en particulier sur le 110e Paris-Roubaix couru dimanche dernier et qui a vu donc la victoire de Tom Boonen pour la quatrième fois. Alors les médias ont sur 4 jours distillé environ 1110 sujets à propos de cette course historique. Alors des sujets qui se répartissent pour la moitié le jour même de la compétition, c'était donc dimanche. Et en termes de médias, le web englobe à lui tout seul 61% des sujets, 34% pour la presse. Alors concernant les évocations de la course à la télévision, il faut noter que France 3, qui était le diffuseur du direct, a aussi, et grâce à ses éditions d'information régionale, distillé lui la moitié du volume en télé. Alors la presse régionale a aussi largement contribué au succès médiatique de la course, en mettant en avant évidemment l'histoire de la compétition avec des relais comme Nord Éclair, Le Courrier Picard ou encore La Voix du Nord. Et puis il faut dire que pour la ville de Roubaix, cette compétition, cette course est un vecteur primordial de sa médiatisation car la course cycliste construit à elle seule 52% de son actualité sur le week-end en question.
Alors Laurent, avec la concurrence des autres événements hein, déjà évoqués, ce résultat est donc à relativiser.
Vous avez raison Bruno. Alors même si l'on comptabilise une diminution de 15% des retombées pour Paris-Roubaix par rapport à l'année dernière, c'est tout de même une belle performance. Rappelons-le, il y avait deux clubs de rugby français qui jouaient leur place en demi-finale dans la H-Cup. Une compétition qui, elle, est prisée par 50% des intéressés au rugby. Alors, pour chacune des deux rencontres, nous avons relevé deux fois moins de sujets que pour le cyclisme. C'est-à-dire que pour le match concernant Toulouse, nous avons dénombré 655 sujets, 732 pour celui concernant Clermont, donc le seul club qui représentera la France en Coupe d'Europe.
Laurent, le week-end dernier, il y avait aussi le fameux classico entre PSG et Marseille. Est-ce que en ce week-end, Pascal, les retombées médias ont été à la hauteur de celles relevées lors des précédentes confrontations ?
Alors pas vraiment, Dorothée. Elles sont certes volumineuses avec 2320 retombées, mais moins importantes que lors de la confrontation précédente sur cette même saison, hein, avec près de 1000 retombées en moins.
L'autre événement sportif hein, se jouait sur terre battue, du tennis, hein, évidemment, et terre battue et battue, hein, comme l'équipe de France en Coupe Davis, qui a été éliminée par les États-Unis en quart de finale. Laurent, est-ce que cette compétition revêtait un intérêt particulier dans les médias ?
Alors oui, on peut le dire, et à plusieurs titres. Tout d'abord, c'était la dernière de Guy Forget à la tête de la sélection française, puis en raison aussi de la polémique actuelle sur les joueurs qui, pour beaucoup, résident à l'étranger. Alors pour cette compétition en termes légasques qui s'est étalée sur 3 jours, on a dénombré 2090 sujets, dont 80% proviennent du web. Beaucoup d'alertes sur l'avancée des scores des rencontres, donc c'est assez normal. En attendant le nom du nouveau sélectionneur, Guy Forget voit lui son nom associé à 691 sujets, soit un tiers du volume total de retombées.
Merci Laurent Martinez, directeur des études de Quanta Sport. On retrouvera le chiffre de Quanta Sport la semaine prochaine, évidemment dans Sport Echo. On continue avec vous Dorothée, le journal du marketing sportif. Un petit peu de parrainage et ASICS qui met en place sa nouvelle campagne de communication.
Cette campagne s'appelle Made of Sport. Elle a été préparée par l'agence OMD Fuse et s'appuie sur les différents athlètes en contrat avec la marque. Christophe Lemaître notamment, mais aussi par exemple Simon Whitcroft, un coureur non-voyant. Le point d'orgue de cette campagne, c'est le marathon de Paris avec publication de visuels dans les journaux et diffusion de spots télévisés.
C'est ce week-end le marathon de Paris. Generali qui lance ses trophées du sport responsable 2012.
Ils existent depuis 3 ans maintenant et ils ont pour vocation de récompenser des clubs ou des fédérations qui ont pris des initiatives responsables et qui ont signé la charte du sport responsable de Generali. Les candidatures sont possibles jusqu'au 1er septembre, remise des trophées le 4 décembre.
Jeep qui est le nouveau sponsor de la Juventus.
Jeep va donc remplacer Betclic. La marque sera le sponsor maillot du club italien à partir de la saison prochaine pour 3 saisons. Elle sera également son fournisseur de véhicules. Un mariage plutôt logique puisque Jeep appartient à Chrysler. L'actionnaire majoritaire de Chrysler, c'est Fiat. Et Fiat est aussi l'actionnaire principal de la Juve. L'accord est valorisé 35 millions d'euros pour les 3 ans.
CQFD. Lotus F1 gardera son nom jusqu'en 2017, hein, mais le contrat a été rompu, Dorothée.
Le groupe Lotus n'est désormais plus le sponsor principal de l'écurie Lotus F1 Team depuis le mois de décembre, en fait, depuis le rachat de Lotus par DRB Ecom. Gérard Lopez, le propriétaire d'Enstone, vient d'annoncer la fin de la collaboration. Il cherche un nouveau sponsor principal. Selon Auto Hebdo, des discussions avec plusieurs partenaires potentiels seraient déjà en cours.
Enfin, un mouvement, on est encore dans le sport. Philippe Germont qui a été reconduit à la tête du PMU.
Il restera PDG du PMU pour 4 années supplémentaires grâce notamment aux bons résultats obtenus en 2011 avec un résultat net en hausse de plus de 10%. Philippe Germont aura donc réussi à faire accepter sa stratégie de diversification dans les paris sportifs en général, pas seulement hippique donc, et également le poker en ligne.
Merci Dorothée Balzan.
Merci Bruno.
Bonnes vacances.
Merci.
On vous retrouve dans 2 semaines, 3 semaines.
3 semaines.
3 semaines, oh, profitez-en. Bon, nous on va filer au parc des expos de la Porte de Versailles de Paris où se tient le salon Galaxy Foot. Je vous y retrouve dans quelques minutes sur BFM Business.
BFM Business, Sport Echo, Bruno Fraioli.
Et Sport Echo que l'on retrouve au salon Galaxy Foot qui se tient jusqu'à dimanche à la Porte de Versailles, au parc des expositions de la Porte de Versailles. C'est à Paris. Galaxy Foot, bien on va parler football hein, dans Sport Echo justement, ça tombe bien puisque c'est un salon qui est consacré au football. On va en parler avec Laurent Lipari qui est le directeur associé du United Players et l'organisateur de Galaxy Foot. Avec Eric Marchilly qui est le responsable du sponsoring chez Carrefour. Julien Japper, directeur de sport et citoyenneté. Julien, vous nous direz ce que c'est exactement sport et citoyenneté. Et puis notre expert sport éco du jour, c'est Serge Valentin, le directeur de Fairplay. Bonjour messieurs. On va commencer avec vous, Laurent Lipari, donc directeur associé de United Player, et vous êtes vous-même l'organisateur de ce Galaxy Foot, ce salon. C'est la 6e édition. En 2 mots, on trouve quoi sur ce salon?
Bonjour Bruno. Effectivement, 6e édition du salon du foot, et le salon du foot, c'est le salon de tous les footballs. Et le grand message qu'on veut faire passer pendant 3 jours à la Porte de Versailles, c'est qu'il fait bon vivre dans le football. Et ici, tout est mis en place pour mettre à l'honneur toutes les bonnes initiatives qui sont menées dans le foot, aussi bien dans le football professionnel, bien sûr, mais aussi dans le football amateur, le foot féminin, le foot à 5, le foot virtuel, le foot de table.
On retrouve tout.
On retrouve vraiment
les composantes du football, même le baby-foot. Hein,
exactement.
Et le studio de BFM est installé, il y a des baby-foot en bas, au nom de tous les stades de Ligue 1.
Vous êtes dans le Café des Sports, une innovation.
Normal.
Voilà, exactement. Et aujourd'hui, particulièrement, on a mis en place une journée B2B. Et tout au long de la journée, il y a des débats assez intéressants sur le sponsoring football, sur les stades. Et on le fait avec la complicité de nos partenaires RMC, BFM, Sportsora, Sport et Citoyenneté. Donc voilà.
Bon, et puis évidemment, il y a un petit peu de bruit puisqu'on est sur ce salon, hein, comme dans un stade, hein, évidemment. Alors, Laurent Lipari, le football se porte-t-il bien? Je vous pose la question, mais je vais continuer quand même parce qu'il y a des études hein, qui sont sorties récemment où on parle de la bonne santé du sport business, hein, le marché français aujourd'hui serait à 4,5 milliards de dollars et pourrait passer à 5,5 à horizon 2015, donc ça se passe bien, mais si 5000 sponsors et mécènes du sport font le sport business, il y a vraiment que 50 entreprises hein, selon Sportsora qui réalise 2/3 des investissements. Et je vais plus loin parce qu'il y a une autre étude sur Sportlab, qu'a sorti Sportlab, avec, où on voit quand même un désintérêt hein, du football. 46% du grand public suit le football, c'est quand même derrière le tennis. 23% des intéressés de sport suivent le foot, c'est également encore derrière le tennis. Bon, et 10% des fans de foot suivent le foot, ça c'est un petit peu normal, c'est le premier sport suivi. La Coupe du Monde, enfin le football l'année dernière en 2011 n'a été que le 5e événement suivi, c'était la Coupe du Monde de foot féminin. Et surtout, 61% des Français ont une très mauvaise image du football. Alors, y a-t-il un désintérêt du football, Laurent Lipari ?
Non, il n'y a pas un désintérêt. Il y a eu un électrochoc en 2010, où il s'est passé quelque chose en Afrique du Sud qui a un peu bousculé et surpris le public français, ou peut-être tout simplement réveillé le public français, les sponsors, les acteurs. Et je peux vous assurer que depuis cette fameuse journée sud-africaine, eh bien, tout est mis en place au sein des clubs, de la Fédération française de football, des agences, des sponsors, pour continuer à faire en sorte que ce sport reste le sport roi en France.
Mais on voit quand même que le public est là, hein, dans votre salon, hein, à Galaxy Foot, mais est-ce que les partenaires également le suivent ?
Bien entendu, aujourd'hui,
se renouvelle.
Les partenaires sont présents. Simplement, effectivement, il y a une approche qui a un peu évolué. C'est la seule chose qu'on peut dire. Jusqu'en 2010, les sponsors supportaient le football assez naturellement et sans forcément avoir des énormes stratégies derrière d'exploitation. Depuis 2010, la clé, c'est « Ok, je veux bien continuer à vous accompagner, accompagner un club, accompagner la fédération, mais je veux mettre en place des choses avec vous, je veux travailler main dans la main, je veux avoir des garanties que notre partenariat va apporter quelque chose de plus. »
Éric Marchilly, vous êtes le responsable du sponsoring chez Carrefour. Carrefour est engagé dans le vélo hein, depuis 2003, le Tour de France. Hein, vous êtes l'un des 4 sponsors principaux du Tour de France, également supporter du maillot à poids, partenaire du maillot à poids du meilleur grimpeur. Et également dans le football, depuis donc 2007, hein, vous avez pris la succession du partenariat de Continent. Aujourd'hui, ça ressemble à quoi le partenariat de Carrefour dans le football ?
Ça essaie d'être un partenariat créatif, non seulement créatif, mais en plus de ça, complètement lié avec l'ensemble des gens qui jouent au football. On a des axes dans les nouveaux contrats, notamment quand on a re-signé avec la Fédération française, on a désiré se retirer du premier rang qui nous apportait surtout de la notoriété. Pour dire de passer.
On n'en avait pas besoin.
On n'en avait pas besoin, on a déjà 95% de notoriété. Donc pour plus passer vers des actions qui étaient des actions de proximité, de réchauffement de l'enseigne, notamment en travaillant plus les jeunes, en travaillant surtout le football féminin, et on est devenu un des acteurs principaux du football féminin aujourd'hui.
Oui, partenaire donc du lot, hein, entre guillemets, du lot de l'équipe de France féminine, mais également vous êtes partenaire de deux clubs, hein, Juvisy et le Paris Saint-Germain.
Absolument.
Et je crois même que vous avez une assistante hein, qui est joueuse.
Tout à fait. J'ai une assistante qui s'appelle Nadia Ben Mokhtar et qui est milieu défensif au club de Juvisy. Et je suis très fier qu'elle soit avec nous. Et en plus de ça, ça nous permet dans ce développement du foot féminin d'avoir un avis de quelqu'un qui est joueuse et qui est certainement beaucoup plus large en termes de vision qu'on peut l'être nous.
Serge Valentin, notre expert sport éco de la semaine, de l'émission, le foot, il y a un désintérêt des partenaires ou pas ?
Non, pas réellement. Je pense qu'il y a un désamour un peu global par la déception sportive qui a entraîné la déception sportive et le comportement des joueurs, effectivement, sur la dernière Coupe du Monde. Maintenant, il y a toujours une vraie attractivité pour ce sport. Tout le monde a poussé le ballon et je pense que tout le monde n'attend que ça pour repartir. Et les marques ont su, je pense, assez intelligemment rester fidèles et travailler pour donner plus de sens. Effectivement, comme le disait Eric précédemment, de dépasser la visibilité qui est déjà forte dans le monde du foot pour essayer d'apporter quelque chose de plus. Je pense que Laurent l'a signalé aussi. Aujourd'hui, il y a besoin de donner du sens à l'engagement qu'une marque fait dans son sport et particulièrement dans le football. Voilà.
Du sens, de l'éthique, c'est ce que vous voulez travailler chez Sport et Citoyenneté, Julien Japper ?
Oui, Sport et Citoyenneté, on est avant tout un groupe de réflexion. Donc aujourd'hui, c'est 150 experts, des juristes, des économistes dans toutes les disciplines qui se questionnent justement sur le sens que pourrait avoir le sport dans la société. Alors moi, je vais un peu détonner peut-être et casser un peu l'ambiance générale, mais j'imagine que vous m'avez Alors, invité pour ça.
Vous savez quoi? Ouais, vous allez détonner. Vous allez détonner dans quelques minutes sur BFM Business. On va faire une petite pause et vous allez nous raconter un petit peu ce qu'est justement sport et citoyenneté, votre travail et notamment vis-à-vis de l'éthique. Hein. Je pense que ce qu'a dit Serge Valentin tout de suite au niveau du sens, ça vous intéresse particulièrement.
C'était une transition parfaite.
Bon, on se retrouve dans quelques minutes. Nous sommes toujours à Galaxy Foot avec l'émission Sport et Co. On se retrouve dans quelques minutes sur BFM Business.
BFM Business, Sport Echo, Bruno Fraioli.
Et Sport Echo qui est toujours à Galaxy Foot, enregistré exceptionnellement à Galaxy Foot, c'est le salon du football, la 6e édition qui se tient dans le parc des expos de la Porte de Versailles à Paris. Et nous sommes avec Eric Marchilly, le responsable du sponsoring de Carrefour, avec Serge Valentin, notre expert Sport Echo et directeur de l'agence Fairplay, Laurent Lipari, le directeur associé de United Player, une agence de marketing sportif, et également vous êtes l'organisateur de Galaxy Foot, de ce salon. Et nous sommes également avec Julien Japper, le directeur de sport et citoyenneté. On en parlait donc juste avant la pause. Julien Japper, vous cherchez autre chose dans le football, vous voulez faire passer une autre voie, en tous les cas vous voulez demander peut-être aux partenaires de parler différemment du football.
Notre intérêt, c'est avant tout protéger le jeu, hein, c'est-à-dire que le football reste un jeu parce qu'il a des conséquences sur la société éducative, d'insertion, de respect de la règle qu'on connaît en particulier auprès des jeunes. Donc on a un constat aujourd'hui, et d'ailleurs on va faire une table ronde cet après-midi aussi au sein du Galaxy
Foot. Vendredi après-midi, donc. C'était hier ou avant-hier pour...
Vendredi après-midi, sur le football est-il au bord de la crise financière. Et moi j'aimerais vous apporter juste deux, trois chiffres aussi pour vos auditeurs. 56% des clubs de première division européenne sont en situation de déficit en 2010.
Plus de la moitié donc. Hein.
Voilà, exactement. Et la perte du football européen en 2009-2010, c'est 1,2 milliard d'euros. En moyenne en Europe, quand il y a 5 euros de recettes, il y a 6 euros de dépenses.
Mais on est vraiment dans la mauvaise gestion là.
On est dans la mauvaise gestion.
Le foot se porte mal économiquement parce que, enfin ces clubs se portent mal parce que c'est une mauvaise gestion.
Oui, on est dans la mauvaise
gestion.
C'est
pas parce que les annonceurs ne sont plus là ou les droits TV ne sont plus là.
Je pense qu'il n'y a pas de lien justement. Moi, je suis un ancien de chez Canal+, donc je peux vous dire que Canal+, chaque année, il paye le football. Et je crois qu'on est vraiment dans un problème de gouvernance de ce sport. Et notre inquiétude, elle est d'abord dans cette gouvernance et puis ensuite dans toutes les conséquences sociétales que ça peut avoir une mauvaise gouvernance.
Un problème d'image finalement.
Voilà, un problème
qui
d'image.
Peut avoir des problèmes, qui peut avoir des répercussions sur justement les recettes marketing, les recettes de billetterie et les recettes d'annonceurs.
J'imagine. Mais surtout, ça peut avoir des répercussions sur la société en général, parce qu'une société a les idoles qu'elle mérite. Mais moi, mon fils, je préfère qu'il ait des idoles qui soient des exemples.
Qui soient des exemples, effectivement. Eric Marchilly, responsable du sponsoring chez Carrefour. Évidemment, ce qu'on entend, la mauvaise image du football, 61%, je redonne ce chiffre-là, hein, chez Sportlab, 61% des Français ont une très ou une mauvaise image du football. Ça doit quand même vous tracasser, vous, partenaire majeur du foot.
Je pense que c'est en effet la conclusion de ce qui s'est passé, la conclusion de Dacia, la conclusion d'un certain nombre d'années où l'argent au niveau des footballeurs a fait du ravage. Et à aujourd'hui, on le voit encore.
Football, c'est argent. C'est lié
football,
à l'argent.
Football, c'est argent, oui, tout à fait. Pour beaucoup de gens, tout à fait. Alors que football, c'est autre chose. Football, c'est des valeurs. Je pense qu'aujourd'hui, la fédération, les partenaires de la fédération, on réfléchit et ça fait un moment qu'on en discutait avec
vous.
On en discute entre nous.
Il y a un club, mais... des partenaires aussi.
Oui, on en discute beaucoup entre nous, mais on a surtout la chance d'avoir un président qui est très à l'écoute, qui est Noël Le Graët, qui est un homme d'entreprise de marketing et qui sait ce que c'est qu'investir et ce qui sait ce que c'est qu'avoir et vouloir avoir des résultats.
Alors qu'est-ce que vous attendez de la fédération?
Mais ce qu'on attend avant tout, c'est même pas tant de la fédération que des joueurs, que de l'ensemble des instances. À aujourd'hui, un football qui marche du feu de Dieu avec des résultats extraordinaires, c'est les filles. Pourquoi c'est un football qui marche bien? Parce que les filles sont simples. Elles sont sur le salon aujourd'hui, elles le seront demain. Il y a quelqu'un qui est à la tête de l'équipe de France féminine, qui est le sélectionneur, qui s'appelle Bruno Bini, et qui est un gars qui a tout compris. Bruno Bini, quand il est avec les filles, la première chose qu'il fait faire, ben les filles, elles sont sympas dans le stade. Et moi, j'étais en Martinique, j'ai eu la chance d'être en Martinique, où les filles, pendant plus de trois quarts d'heure, ont dansé avec le public. Je me souviens également de Lens, où elles ont chanté l'hymne de Lens. Parce qu'il se passe quelque chose.
Ça.
Complètement. Et Bruno Bini oblige ses filles, après chaque match, à faire pendant 20 minutes le tour du stade.
Alors pourquoi, Laurent Lipari, pourquoi le football a perdu cette proximité avec ses supporters?
Parce qu'en parallèle, il y a d'autres sports qui ont émergé, comme le rugby, le hand, qui ont la chance d'avoir de formidables ambassadeurs que sont tout simplement les joueurs, qui eux ont créé cette proximité avec le public, avec les médias. Et il est tellement plus sympa aujourd'hui de rencontrer tous ces joueurs de rugby, de hand, que ça a un peu bousculé cette hiérarchie. Et les filles du football français sont la vraie nouvelle fraîcheur.
Plus, elles gagnent.
Et elles sont jolies, elles gagnent et elles sont sympas, comme vient de le dire Eric. Elles viennent naturellement sur le salon, et alors que c'est pas si simple de faire venir nos amis footeux. Donc je pense que ça va les bousculer. Et si tout le monde tire dans le même sens, dans quelques temps, en 2016 par exemple, peut-être que le football français aura vraiment évolué. Et en tout cas, il y a un vrai travail qui est mis en place depuis 2010. Au sein notamment de la fédération.
Éric Marchilly, chez Carrefour, vous êtes posé la question de savoir si vous allez garder le football ou pas, quand on entend Laurent Lipari qui parle effectivement de la bonne image des handballeurs, même des rugbymen. Vous auriez pu aller sur ces sports-là.
Mais
vous avez besoin de visibilité quand même. Hein.
Non seulement ça, mais quand on est une société comme la nôtre, on a un réseau, on a des magasins qui sont à travers toute la France, on travaille sur l'ensemble des formats, c'est-à-dire les hyper, les supermarchés, la proximité. Donc bien évidemment, on se doit d'avoir des clubs en proximité, on travaille beaucoup. On a 1700 équipes de jeunes aujourd'hui, partenaires de nos magasins. Et c'est bien évidemment le football, dans la mesure où il est tellement populaire, il y en a partout. Donc... oui, aujourd'hui, on essaie de travailler et on essaie d'avancer avec les clubs, avec la fédé, avec les joueurs.
Laurent Lipari.
Ce qui est important, c'est que le football en France, c'est pas que le football professionnel, ce n'est pas que l'équipe de France, c'est tous les clubs, ces milliers
c'est tiré évidemment par le haut de la pyramide.
Voilà, exactement. C'est important parce que on médiatise essentiellement les clubs pro. Mais regardez l'histoire de Quevilly, c'est pas exceptionnel ce qui est en train de se passer. L'engouement qu'il y a autour d'un club amateur.
Je vais avoir une question justement avec Quevilly, justement une question plus économique. Avant cela, Serge Valentin, notre expert Sport Eco de la semaine, ici sur le salon Galaxy Foot, où est enregistré le magazine Sport Eco. Serge Valentin, à votre avis, qui est responsable du comportement des joueurs?
Je pense réellement qu'il y a un problème de formation. Parce qu'aujourd'hui, le football a eu un développement incroyable avec les résultats de 98 et derrière. Une augmentation globale et c'est devenu une starac permanente où la seule valeur pour les joueurs, c'était l'argent, c'était le contrat. C'est ce qu'ils allaient gagner. Et il y a eu un défaut de formation dans les clubs, je pense, justement sur le comportement, sur l'attitude, sur le respect, sur tout ce qui fait l'intérêt pour des marques de venir dans le sport et qui veulent le retrouver. Et je pense que les joueurs aujourd'hui ne l'incarnent plus. Et on parlait du rugby rapidement, je vais juste faire une petite écartade, mais je pense que le rugby ne profite pas de l'expérience du football parce qu'ils vont à la vitesse grand V dans les mêmes problèmes aujourd'hui. C'est-à-dire que on voit bien que même si aujourd'hui ils ont la cote, ils ont l'amour, je pense que le comportement du rugby pro aujourd'hui, il tient pas compte de l'expérience du football. Donc je pense qu'on va vers la même dynamique. Et c'est vraiment un problème de formation à la base où il faut, comme c'est fait pour les filles, et comme Eric l'a bien dit pour les filles, il faut être capable vraiment... pour tous les enseignants, pour tous les gens qui sont dans les clubs, de former les jeunes à ce respect du public, du spectateur, des partenaires.
Éric Marchilly, pas du tout. Juliane Japper, Éric Marchilly, vous parlerez tout à l'heure. Juliane Japper, directeur de Sport et Citoyenneté. Vous aussi, vous suivez ce raisonnement?
Oui, alors on se bat à un niveau européen. C'est important de se battre à un niveau européen aussi dans le foot pour pas arriver à des problèmes d'absence d'équité dans les compétitions. Hein. On peut pas régler des problèmes en France et avoir des législations différentes dans d'autres pays. La double formation, c'est essentiel, mais on doit l'imposer. On doit l'imposer dans les centres de formation de football. Elle existe dans d'autres sports. On a un bel exemple avec l'INSEP, dans les centres de formation de football de France, elle n'existe quasiment pas, alors que les footballeurs
éthique, c'est-à-dire
ont
faire passer
du
une
temps.
Certaine éthique, c'est ça ?
Oui, mais même la base éducative, une double formation, ils ont du temps pour travailler, ils ont du temps pour apprendre des langues, ils ont du temps pour passer leur bac,
là, vous
on doit l'imposer.
Vous pensez que nos professionnels, nos footballeurs pros de l'équipe de France, eux, ne sont pas passés par là et n'ont pas eu cette, c'est un grand mot, éducation ?
Oui, attention avec ce mot éducation, évidemment, mais on ne peut pas généraliser ça, hein, il ne faut surtout pas généraliser.
C'est l'éducation par l'argent ?
Mais c'est peut-être l'éducation par l'argent, mais aujourd'hui, dans les centres de formation de football en France, cette double formation, elle n'existe quasiment pas. Moi, je me bats pour qu'on l'impose, que ce soit quelque chose qui soit obligatoire, c'est-à-dire que les footballeurs aient l'obligation, surtout s'ils ont de l'ambition, de connaître une langue et d'avoir un certain niveau, un certain bagage, avant tout pour eux, pour ne pas être aussi manipulés.
Avant de parler, comme j'ai en mémoire un reportage dans le centre de formation à Clairefontaine, où les jeunes, ces cadets, je crois, à 14-15 ans, la première motivation, c'était effectivement l'argent. À un moment donné, il faut que même à 15 ans, ils jouent.
Voilà, alors c'est intéressant, chez nous, on a aussi des psychologues. Recevoir tant d'argent à l'âge où ils commencent à signer leur premier contrat, ça provoque aussi des déséquilibres, il faut le dire.
Éric Marchilly, toujours à Galaxy Foot, enregistré spécialement, hein, Sport Éco enregistré spécialement à Galaxy Foot. Laurent Lipari vient de parler de Quevilly qui donc s'est qualifié pour la finale de la Coupe de France. Superbe histoire. Vous êtes partenaire de Carrefour, hein, de la Coupe de France.
On est partenaire de la Coupe de France, tout à fait, bon, depuis deux ans.
Vous, ça vous ravit ce type d'histoire?
Ah oui, non, mais c'est extraordinaire. Ça ravit et ça inquiète.
C'est Calais.
Ça ravit et ça inquiète. Faut être objectif. Oui, ça ravit. On est heureux parce qu'on a vu des gens extrêmement heureux sur une autre planète. Donc bravo. C'est quand même le sport. Et quand le sport, on arrive
et
à des choses
comme ça.
Là, on est
dans la belle histoire qui porte beaucoup de choses et qui a un intérêt commercial et financier pour vous.
Mais non seulement, non, mais je pense qu'il ne faut pas parler d'intérêt commercial et financier à ce niveau-là. Ah,
vous mettez un petit peu d'argent, vous attendez là, un retour sur investissement.
Oui, mais je pense que si on avait eu une finale également entre Lyon et Marseille, comme on va l'avoir ici, dans le Stade de France, il y aurait eu beaucoup de gens
coupe
aussi, peut-être encore plus, Coupe de la Ligue. Donc je pense que c'est pas tellement ça, c'est plus une histoire. Et je pense que dans le foot, c'est ce qu'on a pu dire dernièrement. Et on manque d'histoire aujourd'hui, on crée plus. Et c'est pour ça qu'on crée avec les féminines ce qu'on ne crée pas encore avec les hommes, j'ai bien encore.
Alors qu'est-ce qui vous embête avec la qualification de Quevilly en finale de la
Coupe
de France?
Non, pas du tout, je suis très content. Mais par contre, à côté, c'est sûr que si on a un Quevilly qui allait en Coupe d'Europe,
voilà,
ce serait peut-être un petit peu très bien pour Quevilly, mais on aurait peut-être plus de chance avec un club un peu plus important.
Alors justement, Laurent Lipari, tout à l'heure, vous avez fait référence à Quevilly, c'est la question que je voulais vous poser. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour le foot et le foot business, que Quevilly en finale de la Coupe de France est peut-être qualifié pour une Coupe d'Europe?
Quoi qu'il arrive, c'est une bonne nouvelle pour le football français, pour la médiatisation de cette équipe, de ce match, de tout ce public normand. Donc ça, c'est sympa. Après, encore gagner
les affaires.
Il faut encore gagner.
On est sur une radio économique, on va parler argent.
Il faut battre Lyon qui est une très très belle équipe et après on verra si
il pourrait se qualifier si Lyon se qualifie via le championnat de France.
Ça permettra de faire une super fête en Normandie pour un match de Coupe d'Europe.
Mais c'est pas représentatif quand même économiquement. Comment les partenaires peuvent s'intéresser à un club de National 3, de National, de 3ème division, qui serait en Coupe d'Europe?
En tout cas, leur match de Coupe d'Europe seront médiatiques, donc on pourra s'y intéresser de façon événementielle. Et après, ça sera quand même sympa d'accompagner ce club. Il y a peut-être d'autres histoires à développer, d'autres partenariats, des partenariats plus citoyens. On parlait tout à l'heure dans un débat du sport santé. Il y a plein de choses encore à faire. Et pourquoi pas d'avoir comme caution un club national qui est peut-être plus disponible pour accompagner sur le terrain les jeunes que les joueurs professionnels. Aujourd'hui, attention, il ne faut pas non plus mettre toute la responsabilité sous les joueurs des joueurs professionnels. Il faut les aider, mieux les encadrer, comme le disait Jesper tout à l'heure. Mais peut-être que le club de Quevilly est plus dispo pour partager des moments avec le public, avec les jeunes.
Voilà. Éric Marchilly, juste un dernier mot. Qu'est-ce qui peut sauver vraiment le football, l'audience, que l'audience revienne, qu'il gagne des matchs, que l'équipe de France
gagne des matchs? Le public, il suffit de regarder. Dès que ça se passe bien, il y a tout de suite du monde dans les stades. On le voit avec les féminines, le monde qu'il y a aujourd'hui parce qu'elles gagnent, parce qu'elles sont sympas. Donc je pense qu'avoir quelques victoires. Et puis je crois qu'il faut aussi être un petit peu optimiste. Le travail qui est fait par Noël Le Graët et ses équipes fait qu'actuellement il se passe des choses à la Fédé et que je pense qu'au niveau des joueurs de l'équipe de France, on aura de très très belles surprises dans les prochaines semaines et les prochains mois.
Profitez du micro de BFM. Vous allez une opération bientôt de mécénat, les boucles du cœur.
Absolument.
Avec Carrefour. C'est quand ?
Merci. Ce sera le 10 juin. C'est à travers toute la France. C'est au profit de deux associations. C'est au profit de deux associations qui travaillent pour les enfants. SOS Village d'Enfants et l'association Naïk Noah. Faites le mur. Venez participer. Venez dans vos Carrefour les plus proches, Carrefour Market. Aidez-nous. C'est pour les enfants.
Merci Éric Marchilly, merci Laurent Lipari de nous avoir accueillis Sport Echo ici sur le salon Galaxy Foot jusqu'à dimanche soir, porte de Versailles à Paris. Julien Japper, l'actualité de Sport et Citoyenneté.
Notre prochain magazine sur la corruption dans le sport.
Un vaste programme encore. On pourra faire au moins une émission de 3 ou 4 heures.
On pourra faire une émission, je vous raconterai des belles histoires. Et moi, j'ai hâte un jour qu'on parle de l'équipe de France masculine et qu'on parle plus de l'équipe de France féminine.
De football, évidemment.
Exactement.
Merci Juliane. Serge Valentin, je vous remercie aussi. Mais vous restez avec nous, hein, puisqu'on va écouter votre coup de cœur, ou alors peut-être un coup de gueule. Hein, ce sera sur le football dans quelques instants. Dans Sport Echo, on continue à parler foot, notamment avec notre avocat Emmanuel Durand. On se retrouve tout de suite sur BFM Business.
BFM Business, Sport Echo, Bruno Fraioli.
Et on termine ce Sport Echo, toujours enregistré sur le salon Galaxy Foot, qui se tient au Parc des Expos de la Porte de Versailles à Paris. On termine avec le coup de cœur ou le coup de gueule de nos experts Sport Echo. Cette semaine, c'est Serge Valentin qui est resté avec nous, le directeur de Fairplay. Serge, alors, c'est un coup de gueule.
Exactement, Bruno. C'est un vrai coup de gueule, je dois dire, même parce que on n'arrête pas de dire dans le sport que les valeurs sont fondamentales pour beaucoup de gens pour justement investir. Je dirais, c'est particulièrement les entreprises dans le sport. Et je dois dire que ce qui est sorti un petit peu autour du football et du match OM Montpellier et le souhait d'un des clubs de supporters de l'OM d'inciter à lever le pied pour le match afin de permettre à Montpellier de remporter le titre de champion de France plus facilement est quelque chose qui pour moi enfreint un peu la règle, en tout cas.
C'est pas très sportif.
Voilà, exactement, et les valeurs. Alors, il y a eu une petite réponse molle, effectivement, des deux côtés. D'un côté, l'entraîneur, et d'un autre côté, même de Montpellier, par son président.
Ouais, Louis-Nicolas, quand même, il est évidemment pas satisfait.
Exactement, mais personne ne peut l'être.
Heureusement, quand même.
Voilà, mais j'aurais bien aimé que les joueurs aussi puissent réagir,
On
les a pas du tout entendus. Et puis aussi les entreprises, parce que les partenaires des deux clubs, c'était l'occasion pour elles de, justement, se faire entendre et dire, voilà, on est en train de violer nos valeurs, les raisons pour lesquelles on est avec vous, l'incertitude du sport. Le respect d'une équipe plus forte que l'autre. Heureusement, les buts marqués ont été merveilleux et ne souffrent pas, je dirais, de la moindre suspicion. Donc, on peut dire que les joueurs ont tout à fait joué le jeu sur le terrain. Et ça, c'est tant mieux pour le sport.
Heureusement.
Voilà. Et je pense que, par contre, tout le monde aurait été grandi de vraiment réagir beaucoup plus fortement sur ce petit fait.
Ouais, un mauvais épisode du foot et du sport.
Oui,
en France,
je pense qu'aujourd'hui le foot
faut pas trop laisser quand même la voix aux supporters à un moment donné. Non,
voilà, exactement. Je pense qu'il faut contrôler, et dans un moment où le foot est quand même dans une image un peu perturbée, je pense que si tous les principaux acteurs, les dirigeants, les joueurs et je dirais les marques qui sont autour réagissent, c'est quand même mieux pour améliorer l'image du football.
C'est noté, Serge Valentin. Vous restez avec nous. On va passer maintenant au volet juridique dans Sport Echo.
Sport Echo, le magazine qui met le sport en valeur sur BFM Business.
Et on termine donc ce Sport Echo avec Emmanuel Durand, avocat chez Clifford Chance, qui vient nous parler un petit peu de l'actualité. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Bruno.
Alors, l'actualité, c'est quand même le premier tour de l'élection présidentielle, hein, c'est dans bientôt. En attendant, donc les candidats rivalisent d'ingéniosité fiscale. Et on a beaucoup parlé notamment de la taxation des hauts revenus et notamment de cette taxe de 75% que voudrait mettre en place François Hollande. 75% donc sur les revenus au-dessus de 1 million d'euros annuels. Une réforme qui pourrait être adoptée légalement, Emmanuel Durand ?
Qui pourrait être adoptée si François Hollande est élu, oui.
Évidemment. Alors, comment ça pourrait se passer, cette taxe ?
Alors, pour commencer, juste quelques points techniques, parce que c'est vrai qu'en cette période électorale, on entend un peu tout et n'importe quoi sur ce genre de proposition. Le taux d'imposition, c'est pas un taux unique qui s'applique à l'ensemble des revenus. Votre revenu imposable, en fait, il est divisé en différentes tranches, avec des taux d'impôt différents en fonction des tranches, sachant que plus
toujours
la tranche
trop,
est élevée,
trop élevé, hein.
Toujours trop élevée, évidemment, mais plus la tranche est élevée, plus le taux augmente. Alors, en plus, il faut tenir compte de la situation familiale, vous avez tout le système de quotient familial, de part fiscale, qui permet de limiter la progressivité de l'impôt. Le taux de 75% que propose François Hollande, c'est ce qu'on appelle un taux marginal. Ça veut pas dire que tout votre impôt va être, que tout votre revenu va être imposé à 75%. Ça veut dire uniquement que la part de votre revenu supérieure à 1 million d'euros par an va être imposée à 75%. Pour les tranches inférieures, on garde les taux actuels. Le taux marginal actuel le plus important, c'est 41%. François Hollande a aussi une proposition de 45% au lieu de 150 000 euros. Mais c'est uniquement la part au-dessus d'un million d'euros qui sera imposée à 75%. Donc c'est important.
Emmanuel Durand, est-ce que ça va véritablement avoir sur les sportifs, et évidemment forcément, plus spécifiquement sur les footballeurs, un impact important. On a parlé d'apocalypse même sur les salaires des joueurs.
Ouais, là encore, je pense qu'il faut relativiser. Le salaire moyen d'un joueur de Ligue 1 actuellement, c'est de l'ordre de 50 000 euros par mois. On est donc très loin en dessous du million d'euros annuel. Donc
c'est déjà pas mal, hein.
Ça va pas impacter tous les footballeurs, loin de là. C'est déjà pas mal, c'est sûr. En fait, on parle d'une centaine de joueurs de Ligue 1 que ça devrait impacter. Ce qui illustre en tout cas un point sur lequel je crois, le seul point, je pense, que sur lequel tout le monde est à peu près d'accord, c'est pas ça qui va ramener le déficit budgétaire français à l'équilibre.
Faut pas compter sur les footballeurs, donc.
Non. Ça va être anecdotique. Dans la masse. Mais c'est vrai, ce qui potentiellement plus important, c'est que les sportifs qui seront directement et fortement impactés par ça, c'est les grandes vedettes. C'est ceux qui gagnent entre 300 et 500 000 euros par mois.
Il y en a combien?
Il y en a plusieurs dizaines, plusieurs dizaines dans le championnat de France. Et c'est vrai que quand vous avez 4 ou 5 millions d'euros de salaire annuel, même si la stack ne concerne que la part au-dessus du million d'euros annuel, ça fait tout de suite très très mal. Et c'est vrai que je pense qu'il y a un vrai risque avec des taux pareils, que l'attractivité du championnat de France soit diminuée pour les plus grands joueurs. Le risque, c'est celui qu'on connaît bien en matière fiscale, qui est résumé par la maxime « trop d'impôts tue l'impôt ». Si ces gens-là partent ou ne viennent pas, ben non seulement ils vont pas payer 75%, mais ils vont payer rien du tout, puisqu'ils seront pas en France. Et en plus, le départ des grandes vedettes, ça risque d'entraîner une baisse globale de l'intérêt du championnat. Une baisse globale de l'intérêt du championnat, ça peut être une baisse globale des revenus. Une baisse globale des revenus, ça peut être une baisse globale de l'imposition. Donc c'est une taxe qui, au lieu d'augmenter les recettes fiscales, tout à fait, c'est une taxe qui a un risque de faire baisser les recettes fiscales.
Alors, est-ce que cette situation fiscale en France pour les sportifs, est-ce qu'elle est aujourd'hui vraiment différente de celle des autres pays, Emmanuel Durand?
Là encore, on relativise. Faut quand même savoir.
Les présidents de clubs disent que c'est vraiment différent. Ils sont vraiment trop taxés en France.
Oui, c'est un discours qui est couramment pratiqué, qui n'est pas complètement faux, qui n'est pas complètement vrai non plus. Faut quand même savoir qu'avant toute question fiscale, pour payer les joueurs, faut avoir des revenus. Deloitte a sorti son enquête annuelle sur le revenu des principaux clubs européens. Le Real, c'est 480 millions d'euros de chiffre d'affaires. Le Barça, c'est 450. Le Bayern, c'est 320. En France, Marseille, c'est 150. Avec des chiffres comme ça, vous pouvez mettre l'impôt que vous voulez, vous pouvez mettre 0% de taux d'imposition, vous n'aurez pas Messi ou Cristiano Ronaldo dans le championnat de France, ça c'est clair. Autre point intéressant, c'est faux de croire que le statut fiscal français est complètement défavorable par rapport aux autres grands pays. Si on regarde le salaire net après impôt d'un footballeur qui gagne par exemple 150 000 euros par mois, qui est déjà un beau salaire, c'est une enquête qu'a fait l'équipe magazine récemment, la France elle est dans la moyenne, elle est 3e sur 5. Après impôt, en Espagne, un footballeur qui gagne 150 000 euros brut par an, il touche environ 75 000 euros. C'est pareil en Italie. En France, c'est 69 000 euros. En Angleterre, c'est 66 000 euros. Et en Allemagne, c'est 63 000 euros.
Ah, on est complètement dans la moyenne, finalement.
On est dans la moyenne. Il y a quand même un point où la France bénéficie d'un net désavantage. C'est celui des charges sociales, et notamment des charges patronales qui sont beaucoup plus élevées que dans les autres pays. Ça, c'est vrai. Quand je vous ai parlé tout à l'heure de 150 000 euros, c'est le salaire brut du joueur, c'est-à-dire le salaire après prise en compte des charges patronales. Ça veut dire que ça ne représente pas le coût global d'un salaire pour l'employeur. Et c'est vrai que quand un club français verse 150 000 euros brut à un joueur, ça lui coûte au final beaucoup plus cher que quand c'est un club espagnol qui verse le même montant.
Serge Valentin, est-ce qu'un sportif est un salarié comme un autre ?
Ah oui, bien sûr, il n'y a pas de raison. Donc il y a eu un moment, une petite exception avec le droit à l'image, avec le DIF, qui a été mis en place, qui permettait justement de ramener un peu d'égalité sur les charges sociales qui pouvaient peser pour un club pour payer ses sportifs. Bon, cette disposition s'est arrêtée. Aujourd'hui, c'est un salarié comme les autres.
Donc normalement, fiscalisé également comme les autres. Emmanuel Durand, y a-t-il des moyens pour les sportifs de diminuer leur imposition? Il y en a beaucoup qui sont en Suisse. On va pas les nommer. Il existe aussi peut-être des niches fiscales pour les sportifs en France.
Ouais, alors c'est vrai que l'installation en Suisse, c'est quelque chose qui est très intéressant, parce que la Suisse, même si c'est un système qui commence à perdre du terrain en Suisse, les Suisses sont pas très contents de ce système. En
tout cas, nous, on est à Paris, sur le salon Galaxy Foot.
En Suisse, ils pratiquent ce qu'on appelle le forfait fiscal, c'est-à-dire que vous êtes domicilié en Suisse, vous allez négocier vos impôts avec le fisc suisse, sans aucun rapport avec votre revenu ou votre fortune. C'est une pure négociation. Mais il faut s'installer en Suisse. Le but du jeu, c'est évidemment d'attirer les gens et les riches personnes qui vont s'installer en Suisse. Maintenant, il faut s'installer en Suisse. C'est vrai que pour un footballeur qui joue au Paris Saint-Germain, c'est difficile de s'installer en Suisse.
Tout à fait, pour aller s'entraîner. Et alors, il y a des niches fiscales qui existent en France ?
Il y a des niches. Serge a parlé de la DIF qui a disparu en 2010. Alors, on disait souvent que le droit à l'image, la DIC, c'était quelque chose qui permettait de diminuer l'impôt des joueurs. C'est complètement faux. Ce que permettait le droit à l'image collective, c'est de diminuer les charges sociales des clubs. Et pas du tout l'impôt sur le revenu. Mais il y a d'autres mécanismes favorables. En Espagne, par exemple, on a eu jusqu'en 2009 une loi qui s'appelait la loi Beckham, qui permettait en
du
fait,
nom du célèbre du nom chanteur,
du célèbre chanteur, évidemment,
du mari de la chanteuse,
qui était sur mesure pour les footballeurs, qui permettait en fait de diminuer très fortement le taux d'imposition des footballeurs étrangers qui venaient s'installer en Espagne et qui gagnaient plus de 300 000 euros par mois. Alors, il faut savoir que cette loi Beckham, elle a été supprimée en Espagne. En France, elle existe encore.
Ah.
Elle existe depuis 2008.
Et ils en profitent.
C'est un régime fiscal qui s'appelle l'impatriation fiscale, en fait, qui permet à toute personne qui transfère pour la première fois depuis 5 ans sa résidence fiscale en France de diminuer son impôt sur revenu de 30% pendant 5 ans. Et s'il y a pas mal de footballeurs qui sont venus ou revenus en France à partir de 2008, c'est aussi lié à ça. Il y a un autre système, c'est ce qu'on appelle le lissage fiscal, qui bénéficie notamment aux jeunes joueurs qui voient leur salaire augmenter très rapidement. Ça permet de lisser les revenus sur 3 ou 5 ans et ça permet de diminuer l'impôt de façon très importante. Et puis il y a des systèmes plus sophistiqués encore avec la création de sociétés à l'étranger pour gérer les droits à l'image individuelle. Mais là, c'est de l'ingénierie fiscale, c'est quelque chose d'assez complexe.
Vous savez quoi, Emmanuel ? Ben, on va mettre votre numéro de téléphone hein, sur la page Facebook de Sport Echo, comme ça, tous les joueurs pourront venir vous voir pour écouter vos conseils. Merci Emmanuel
Bruno.
Durand, donc avocat chez Clifford Chance. Merci également Serge Valentin. Sport Echo, c'est fini pour cette semaine. Un Sport Echo exceptionnel, vous pouvez l'entendre, qui a été enregistré à Galaxy Foot sur le salon qui se tient à la porte de Versailles à Paris. Vous pourrez retrouver ce magazine sur le site www.bfmbusiness.com. Les principales infos du sport business sur la page Sport Echo de votre réseau social préféré. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine sur BFM Business. À bientôt.